Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La justice est-elle intraitable, comme le voulait Emmanuel Macron avec les casseurs de samedi à Paris? Les premières peines sont tombées, 36 condamnations, mais personne en prison et personne pour payer les réparations. Nous serons dans le Gers dans ce journal au lendemain de la mise en examen d'un homme de 41 ans dans l'enquête sur la disparition d'une collégienne de 11 ans. Et nous serons également aux États-Unis, d'ores et déjà à 9 jours de la Coupe du Monde. Les Américains, vous verrez, se remettent à prendre les règles du football.
Si on résume ce matin, 36 personnes ont été condamnées depuis dimanche pour des violences, les violences de samedi soir à Paris.
Alors sur ces 36, il y en avait 11 qui étaient jugés en comparution immédiate hier, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, la peine la plus lourde qui a été prononcée, c'est 1 an de prison, dont 6 mois ferme, mais une peine aménageable. Autrement dit, personne n'a dormi en prison cette nuit et tous les prévenus sont rentrés chez eux hier soir, comme un certain Théo, 24 ans, que vous allez entendre avec Julie Brault pour RMC. Il a été condamné, lui, à 10 mois de prison avec sursis pour avoir jeté une chaise sur des policiers et pour avoir été interpellé samedi avec un mortier.
Maillot du PSG encore sur le dos, les traits tirés, Théo tombe dans les bras de sa femme et de son père à la sortie du tribunal.
J'aurais dû écouter mon père et ma femme. Ils m'ont dit de pas y aller et ils m'ont dit que j'allais finir en garde à vue. Ça a pas loupé. Et du coup, je regrette largement parce que j'ai pas eu mon fils pendant 4 jours, donc là je suis pressé de rentrer d'aller le voir, quoi.
Car pour ce père de famille, la fête fut courte. Le soir de la victoire du PSG, à peine descendu de sa voiture, il se fait contrôler alors qu'il est en possession de 7 fumigènes et un mortier d'artifice.
Quand vous voyez 8 policiers cagoulés avec des matraques et un bouclier, ça fait peur, quoi.
L'homme de 24 ans prend alors la fuite, lance une chaise, blessant un policier avant d'être interpellé, mais il assure qu'il ne voulait pas commettre de violence.
Moi, comme je dis, je reste supporter. Oui, j'aurais craqué quelques fumigènes, mais pas pour blesser des gens. Ni les forces de l'ordre. Ils sont pas là pour être blessés non plus. Je vous dis clairement, j'ai eu peur de partir en prison et c'était ma première expérience, mais je pense pas recommencer, je vous le dis tout de suite.
Condamné à 10 mois de prison avec sursis, Théo assure avoir bien retenu la leçon, lui qui promet désormais de célébrer les futures victoires du PSG chez lui, en famille, sur son canapé.
Alors, quelle réponse politique à ces violences? Vous vous souvenez de ce que promettait Emmanuel Macron, c'était dimanche.
C'est pas le foot, ça. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
Et alors un an avant, pour les mêmes violences, il disait ça.
Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela.
Autrement dit, le discours n'a pas changé. Depuis ce week-end, il y a des responsables politiques Gabriel Attal à Jordan Bardella qui remettent au goût du jour la fameuse formule « tu casses, tu répares » pour que les casseurs payent les dégâts des violences. Mais alors Sonia Gobry, vous nous dites pour RMC que normalement, c'est déjà ce qui devrait se passer.
Oui, depuis la loi anti-casseurs adoptée en 2019 en pleine crise des Gilets jaunes, le principe est simple. Sur le papier, l'État peut se retourner contre les casseurs même sans condamnation. Sauf que dans la réalité, il faut un alignement parfait des planètes, confie à RMC un préfet. Une source gouvernementale confirme, c'est trop compliqué parce que pour demander à un casseur de rembourser, il faut prouver que c'est bien lui précisément qui a causé les dégâts. Et c'est bien le problème, dans un contexte d'émeute ou dans un débordement de groupe, difficile d'identifier formellement celui qui allume un feu de poubelle ou casse la vitre d'un abribus. Alors désabusé, un maire francilien estime que c'est de l'énergie gaspillée. Pour lui, je cite, c'est typiquement le genre de sujet où il faut arrêter de faire de la communication.
Il est 8h05 et les recherches continuent dans le Gers où cela fait désormais 4 jours qu'on est sans nouvelles de la jeune Liana, cette adolescente de 11 ans portée disparue depuis qu'elle est sortie de son collège dès vendredi dernier à Fleurance et depuis qu'elle est montée dans la voiture d'un suspect de 41 ans qui a été mis en examen pour enlèvement et écroué dans la soirée. Pierre Bourgès, vous êtes en direct ce matin dans cette petite ville de Fleurance où les enquêteurs mais aussi les habitants poursuivent les recherches.
Oui, d'abord sur le terrain. 72 gendarmes venus de Clermont-Ferrand sont arrivés en renfort hier, portant le dispositif de recherche à 170 militaires aux alentours de Fleurance. Les hommes vont continuer encore aujourd'hui à ratisser en priorité les zones boisées particulièrement difficiles d'accès. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique survole aussi la zone en appui. Des équipes cynophiles et des plongeurs sont également sur place. Et puis, il y a les investigations réalisées par les enquêteurs pour tenter de comprendre ce qu'a fait le principal suspect vendredi après-midi. Dit au moment de la disparition de Liana. Sa voiture dans laquelle est montée la fillette brune a été emmenée au siège de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie en région parisienne. Le véhicule est passé au peigne fin pour rechercher des traces de Liana. Les enquêteurs s'attarderont ensuite sur l'électronique de la voiture qui pourrait aider à reconstituer les derniers trajets du suspect. Mais pour l'instant, malgré la montée en puissance du dispositif, la jeune fille de 11 ans reste toujours introuvable, plongeant les habitants de Fleurance dans une très grande inquiétude.
Des victimes du cadmium vont manifester en fin de journée à Paris, le jour où les députés se lancent dans l'examen d'une proposition de loi visant à réduire les taux de ce métal lourd qui est présent naturellement dans les sols, mais aussi dans les engrais et qu'on retrouve donc dans tout ce qui est pain, céréales, pâtes, et qui serait responsable de nombreux cas de cancer, notamment la multiplication par 4 des cancers du pancréas depuis 30 ans. Bérangère Bocquillon, vous avez rencontré pour RMC Aurélien, qui se bat, on peut dire ça comme ça, contre le cadmium.
Aurélien a 25 ans, il a perdu sa mère en décembre dernier.
Elle avait 58 ans.
Un cancer du pancréas diagnostiqué à peine 3 mois plus tôt.
Il n'y avait quasiment pas de symptômes. C'est aussi pour ça que le cancer du pancréas est si mortel, parce qu'on s'en rend compte relativement tard. À partir du moment où le diagnostic était posé, on savait qu'elle allait mourir.
Une femme jusque-là en pleine santé. Aurélien soupçonne le cadmium d'être à l'origine de sa maladie. Car le lien entre ce métal lourd et le cancer du pancréas a récemment été souligné par l'Agence nationale de sécurité alimentaire. Il a donc lancé une pétition pour exiger moins de cadmium dans nos assiettes.
Cette mesure, elle coûte presque rien et il y a un bénéfice énorme en termes de santé publique et qu'on pourrait sauver des vies.
Cancer, maladie rénale, ostéoporose, le cadmium est aussi toxique pour la fertilité. Aurélien entend mener ce combat pour toutes les victimes de ce poison lent.
Il y a un sentiment d'injustice énorme. J'ai envie de la garder, je pense, un petit peu, cette rage qui m'habite. Mais à un moment, c'était quelqu'un d'extrêmement bon et faire en sorte qu'elle ne soit pas morte pour rien.
En France, nous sommes 3 à 4 fois plus contaminés que nos voisins européens.
C'est le début des quarts de finale à Roland-Garros où les joueurs du PSG ont célébré leur Coupe d'Europe. Ils ont présenté leur Ligue des Champions au public hier avant de rejoindre aujourd'hui les Bleus qui sont donc au complet à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde dans 9 jours en Amérique et notamment aux États-Unis où notre envoyé spécial Martin Bourdin se trouve déjà et nous dit que les Américains ne sont pas tout à fait à la page avec le soccer, comme on dit là-bas.
Regardez tranquillement un match de foot à la télé, inconcevable pour Chuck, même pour la Coupe du Monde.
I don't care, bro.
Je n'en ai rien à faire, lâche sans aucun scrupule ce retraité fan de hockey.
The soccer players are,
Les footballeurs, ils sont toujours à se rouler par terre. Moi, j'aime les sports de dur, donc je ne peux pas regarder le foot, c'est trop lent pour moi.
Outdoors, too slow for me.
Et voir le gratin du foot mondial, les meilleures équipes, les meilleurs joueurs débarquer aux États-Unis a le don d'agacer Léo, casquette aux couleurs de la Floride bien vissée sur la tête.
All they are glorified.
Ce ne sont que des enfants gâtés et glorifiés que les enfants prennent pour des héros. Ce ne sont pas des héros.
Pourtant, Miami, c'est peut-être la ville du soccer. Aux États-Unis, l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami en 2023 a mis en lumière ce sport porté aussi par les nombreux habitants originaires d'Amérique du Sud. Certains ont dépensé des milliers de dollars pour acheter des places, mais la plupart vivront ce mondial depuis chez eux ou dans des bars à cause des prix. Sanel, par exemple, a arrêté de chercher des billets.
Ce que fait la FIFA avec ses prix, c'est presque criminel. Je connais plein de gens qui ne peuvent pas se permettre d'y aller. Ce n'est pas une compétition pour les fans, c'est uniquement pour faire de l'argent.
À Miami, les places les moins chères permettaient d'aller voir la rencontre entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay pour quasiment 250€ la place.
Et alors, si vous êtes parent ou lycéen, vous êtes forcément au courant, c'est ce soir à 19h que vont tomber les premiers résultats sur Parcoursup, la plateforme d'entrée à l'enseignement secondaire qui recueillait les vœux d'un peu plus d'1 million de candidats cette année, ce qui est un record.
C'était le journal de Quentin Vinet.